À voix nue. Toute cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Étienne Dao. Ce soir, Dao en toutes lettres.
Étienne Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous recevez chez vous cette semaine pour évoquer votre carrière de chanteur, d'auteur. On a parlé déjà de votre enfance à Oran, des années de jeunesse à Rennes, des destinations qui ont marqué votre parcours, Londres et New York notamment, sans avoir le temps d'évoquer le Portugal et Saudade, par exemple, ni même Ibiza, l'île des Baléares, où vous avez beaucoup écrit. Cet endroit qu'on imagine souvent comme un cauchemar touristique, c'est aussi un de vos lieux de retraite et de travail privilégié.
Oui.
Vous vous souvenez de la première fois où vous y êtes allé et pourquoi vous y retournez pour écrire?
Oui. La première fois, j'y suis allé en 1981, je crois. Et c'était un espèce de paradis avec vraiment des routes qui n'étaient pas bétonnées, beaucoup de fêtes, beaucoup de milliardaires et de gens fauchés. Donc ça faisait une espèce de mélange comme ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment une île qui est comme une espèce d'amplificateur de choses que l'on ressent. Donc si on y va et qu'on est très bien, on peut être très bien et on peut être aussi dans des abîmes, mais vraiment. Et je suis tombé amoureux de cette île, mais je suis pas retourné avant 1985, par là. Je me souviens être allé avec Arnold Turboust et puis quelques amis. Je venais juste d'enregistrer un portrait, de filmer un portrait pour les Enfants du Rock. Et j'étais pas très connu, ça commençait, enfin on commençait à parler de moi un petit peu. Et il y a eu un truc incroyable, c'est que le passage de ce portrait a fait changer complètement les choses. Et en 15 jours, quand je suis rentré à Paris, à l'aéroport, on me demandait des autographes et tout ça, enfin, c'était inouï quoi. Il y a eu vraiment un avant et un après. Et c'était assez étrange, c'était un peu comme une blague. Et voilà, j'ai ce souvenir de ce moment-là, de 85, et après, j'ai commencé à y retourner très régulièrement. Parce qu'il y a vraiment, il se passe des choses, c'est très mystérieux comme endroit. Il y a ce rocher qui s'appelle Vedra, qui est comme une cathédrale en plein milieu de la mer et qui ressemble à un grand dinosaure qui s'effondre, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires magiques autour de ça. On dit que Ulysse a été envoûté par le chant des sirènes à Vedra. Il y a beaucoup de gens qui se noient tout autour. Les eaux sont très sombres. C'est vraiment, même les gens du coin ont très peur. Par exemple, je me souviens que j'avais fait un tour de bateau autour de Vedra, autour de ce rocher, et je me suis déshabillé, j'ai plongé dans l'eau, et le garçon qui conduisait ce petit bateau à moteur était terrifié à l'idée que je puisse plonger dans ces eaux noires. Et je voulais toucher le rocher, en fait.
Qu'est-ce que vous avez écrit là-bas, Étienne Dao?
J'ai écrit une partie d'un album qui s'appelle Eden. Tout, corps et âme, tour et évolution, et tout l'invitation, quasiment.
Ce qui n'est pas rien, puisque je crois que Eden est un de vos albums favoris. Si un art qui s'entend beaucoup, Étienne Dao, dans votre musique, c'est aussi la littérature. Hein. Le Grand Sommeil, par exemple, ça fait écho au Big Sleep de Raymond Chandler, qui avait été adapté d'ailleurs au cinéma par Howard Hawks. D'ailleurs, je ne sais pas, je me suis toujours demandé si c'était le souvenir de Humphrey Bogart et Lorraine Bacall qui vous avait suggéré le titre, ou bien le livre de Chandler.
C'est le film. C'est vraiment définitivement le film, et le titre est tellement beau. Je pouvais l'adapter à ce que j'étais en train de traverser à ce moment-là, une espèce de lent suicide, le sommeil éternel.
Est-ce que vous lisez, à défaut d'avoir lu ce livre-là de Chandler, est-ce que vous êtes attaché à des lectures en langue originale? Chandler avait été traduit par Boris Vian à l'époque.
Non, plutôt les biographies, parce qu'il y a beaucoup de bios d'artistes. Je suis fasciné par la vie des artistes. Je me dis, mais à chaque fois, mais comment, où ça commence? Il y a Genet qui dit que on n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé. Et c'est vrai, je pense. Je pense qu'il y a il y a une espèce de déchirure, il y a une espèce de chaos qui fait que tous les artistes, enfin, ont la chance de pouvoir tremper leur plume dedans et pouvoir exprimer ça. et de pouvoir le partager avec les autres, ce qui rend la chose tout de suite universelle. On est tous reliés par les mêmes choses, finalement.
Qu'est-ce qui vous relie aux Songs of Innocence de William Blake, qui vous a inspiré les chansons de l'innocence retrouvée?
Ah, je lisais beaucoup ça quand j'étais ado, et c'était comme des chansons. Mais on peut pas lire les traductions françaises. Là, ça permet une ouverture phénoménale de lire la poésie en anglais. Un roman, c'est un peu différent, mais une poésie, ça permet d'y mettre vraiment toutes ces images. Ça a des ouvertures que n'ont pas un roman ou une fiction. Par contre, j'adore lire les bios en anglais, notamment parce que la plupart des artistes qui m'intéressent sont pas, et les bios qui m'intéressent sont pas traduites en français. Donc voilà.
Je reste un instant sur ces chants de l'innocence retrouvée, qui était un de vos précédents disques, Étienne Dao. Il y a une forme d'innocence que vous cherchez à retrouver dans votre écriture?
J'essaie surtout de ne pas la perdre. Alors, je sais pas si je l'ai. Je n'ai pas la sensation de l'avoir perdu. J'ai la sensation parfois d'avoir perdu le goût de faire les choses. Et à ce moment-là, c'est une terreur vraiment qui m'envahit. Et j'ai besoin d'arrêter pour retrouver la même sensation que lorsque je préparais mon premier disque. C'est essentiel pour moi d'être dans cet état d'esprit. Autrement, ça n'a pas de sens.
Ce lien entre votre écriture et la littérature, un journaliste l'avait déjà fait à vos débuts à propos de La Notée. Un critique de Rock et Folk analysait votre geste comme un succès qui vient casser les cloisons imbéciles. Il fait penser à Gainsbourg et à Larbeau. Alors peut-être parce que Valérie Larbeau est l'auteur de Couleurs de Rome, Week-end à Rome, avait évoqué ce souvenir, mais j'imagine parce qu'il avait deviné que vous aviez vous aussi un goût pour ce que Larbeau appelait ce vice impuni. La lecture. Quelle place ont tenu vos lectures dans votre jeunesse?
Immense, mais pas autant que la musique quand même. J'ai essayé de passer très tôt de la bibliothèque verte au livre de poche. Et le premier livre de poche qui m'est tombé sous la main, c'était Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Et j'avais été vraiment très 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 marqué par l'histoire, par cette espèce d'histoire d'amour impossible. La belle et la bête, d'une certaine manière, et puis la détresse du fantôme. Et puis le lieu, l'opéra, tout ça, il y avait une fascination pour ça. Et ensuite, je suis tombé sur un livre de Julien Green. Et j'ai lu, pendant toute mon adolescence, j'ai lu avec passion Julien Green. C'était pour moi vraiment l'auteur qui a accompagné toute mon adolescence. C'est très dépressif comme lecture. Hein. Mais Moïra, Monsinère, Minuit, tout ça. Et même ses correspondances aussi, c'est très très fort. Après, je suis tombé dans toute la lecture de tous les auteurs maudits, quoi. Burroughs, évidemment. Comment ne pas lire Burroughs? Selby, Genet, tout ça. Tout ce qui sentait le soufre était vraiment, vraiment ce qui m'attirait le plus, bien sûr.
C'est un écrivain qui fait une de vos premières interviews. Hervé Guibert pour le journal Le Monde, journal daté du 5 juillet 84. Et Hervé Guibert s'intéresse forcément à votre façon d'écrire. Et vous lui dites à l'époque, je vous cite, Étienne Dao, je pars toujours de la musique et des bribes de phrases viennent en même temps. Je mets ensuite 5 à 10 minutes pour écrire et ensuite je n'y touche plus. C'est presque de l'écriture spontanée, de l'écriture musicale. Les mots ont une correspondance avec les sons. Vous écrivez toujours ainsi, Étienne Dao?
Non, mais les premières chansons, on dit toujours qu'on fait son premier album en 20 ans et qu'on a 6 mois pour faire le deuxième. Mais les premières chansons ont été écrites, c'est vrai, d'une manière très très spontanée, et ça s'entend, parce que une chanson c'est quand même quelque chose de très particulier. On peut pas séparer vraiment le texte de la musique. Il y a très peu de textes qui supportent la lecture sans la musique. C'est pas fait pour d'ailleurs. Une chanson c'est un ensemble, c'est un bon mariage entre la musique et la manière dont la musique s'articule et les mots, la musique des mots, la rythmique des mots. C'est très compliqué d'écrire en français d'ailleurs. Parce que mes influences sont plutôt de la musique anglo-saxonne. Et d'y coller le français, ça prend pas mal de temps.
Comment vous avez compris, Étienne Dao, qu'on remette le prix de Nobel de littérature à Bob Dylan, qui est un auteur de chansons? Et s'il y a une qualité littéraire dans ses textes, c'est aussi méconnaître le fait qu'il a écrit des chansons et non des poèmes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, moi, ça m'a un petit peu surpris, quoi, parce que je trouve que la musique n'a pas besoin d'être mise dans des cases ou décorée. je sais pas, des fois je me pose des questions sur le fait que l'art est quelque chose de très libre et ne doit pas être trop soutenu ou encadré.
Mais c'est très mal pensant ce que vous dites là.
Bah oui, probablement, mais je trouve qu'il y a une certaine liberté justement à ne pas être accompagné dans cette chose qui est assez solitaire. Et voilà, ça me dérange toujours un petit peu.
Vous parlez là aussi de politique culturelle ?
Oui, on peut parler de ça aussi. Je trouve que c'est pas le rôle de l'État de trop mettre son nez dans la créativité.
Je reste un instant sur votre travail d'écriture, Étienne Dao. Des années plus tard, vous avez publié dans la presse un aide-mémoire, un ED comme Étienne Dao, aide-mémoire, un journal de bord de la création de l'album Révolution. En 2003, où vous aviez listé en fait les choses à faire. Choisir des titres, choisir des partenaires, choisir un lieu d'enregistrement et, très important, écrire les textes. Je vous cite encore, ne plus faire semblant de ne pas voir la table de travail en faisant de grands détours, mais au contraire, s'y cramponner, s'y attacher, sangler et faire corps avec sa pauvre feuille et son stylo minable, garantie absolue de résultats satisfaisants et exponentiels. Et puis gratter, chercher en soi, souffrir à fond. Est-ce que l'hygiène d'écriture, elle est toujours la même, puisque je crois savoir que pendant un moment, vous pouviez écrire des chansons à la dernière minute dans le studio entouré de papier?
Oui, c'est arrivé parce que les circonstances étaient comme ça. Il fallait enregistrer alors qu'on était en tournée. Enfin, j'ai pris un peu plus de temps entre les albums justement pour pouvoir avoir le temps d'écrire mieux. J'avais peut-être l'ambition de devenir meilleur. Et même s'il y a des chansons qui, tout d'un coup, avec l'urgence et la spontanéité, ont donné des choses qui restent toujours étonnamment, j'avais pour ambition de mieux écrire, de passer plus de temps à essayer de faire de belles choses. Et je crois que sur l'avant-dernier album, justement, Les chansons de l'innocence retrouvées, c'était vraiment important. Et je me souviens que j'avais vraiment un système qui était de me réveiller tous les matins à 6h et de commencer à écrire sans avoir déjeuné, sans avoir regardé mon téléphone ou les mails, sans avoir été pollué par le monde extérieur et d'écrire jusqu'à ce que vraiment j'ai envie de tout balancer par la fenêtre. Et alors là, je partais avec la musique sur les oreilles, je partais écrire dans les rues de Londres. Et il y avait que comme ça que j'arrivais à trouver des idées et à trouver comment articuler des textes par rapport à des musiques qui étaient un petit peu complexes sur cet album-là.
J'aimerais revenir sur ces mots, Étienne Dao. Et puis, gratter, chercher en soi, souffrir à fond. Vous êtes d'accord avec cette idée, même si c'est injuste, qu'on attend des artistes pop qu'ils souffrent à notre place?
Oui, on dit même qu'il faut que les artistes sont payés pour souffrir pour les autres. Peut-être.
Vous avez le sentiment que c'est votre métier finalement, Étienne Dao ?
Plus maintenant.
Depuis quand ?
Depuis un album qui s'appelle L'Invitation. J'ai eu la sensation d'avoir fait le tour de tout ce qui me taraudait, de tout ce qui était. Tout ce qui me gênait, tout ce qui me faisait souffrir. Je vivais une grande passion très longue et très compliquée qui s'est achevée et je me suis senti libéré. Vraiment. D'aimer d'une manière dingue comme ça, c'était très mauvais pour moi. Et j'arrive à écrire sans souffrir aujourd'hui.
Restons encore un peu du côté de la littérature, et là, plus en arrière, avec Pop Satori, votre disque qui était paru en 85, et le titre fait, lui, référence à Satori à Paris, de Jack Kerouac. Oui. C'est un roman des racines de Kerouac, hein, puisqu'il le signe sous le nom de Jean-Louis Le Brie de Kerouac. Comment est-ce que vous tombez sur ce livre,
Étienne Dao ? C'est Franck Darcel qui me l'avait prêté. Et Franck est
musicien de Marquis de
Sade. Le musicien de Marquis de Sade avec lequel je travaille beaucoup. Et lui est très, très imprégné par la culture bretonne. Ça compte pour lui d'appartenir à quelque chose. Moi, je me sens être plein de choses. Tout et rien en même temps. Et il m'avait prêté ce livre et j'avais été saisi par l'histoire de ce jeune Kerouac qui va rechercher en Bretagne ses racines bretonnes. Et qui a une espèce d'illumination en montant dans un taxi à Paris. On ne sait pas ce que c'est, mais j'ai ressenti une familiarité avec ça. Une espèce d'illumination en arrivant à Paris, de la possibilité que ma vie pouvait changer et que je pouvais avoir une belle vie. Et ça m'a illuminé véritablement et j'ai ressenti en lisant Satori à Paris, enfin j'avais ressenti la même chose, qu'il y avait vraiment une, une vraie similarité. Et donc, cet album qui était un album du succès qui arrivait, c'est assez terrifiant le succès en même temps. Et en même temps, c'est le regard des autres. C'est être accompagné, en fait.
Qu'est-ce qui vous a terrifié dans votre succès, Étienne Dao ?
Ah, mais ça m'a tout de suite fait peur. La première fois que je suis passé au Transmusical, j'avais fait une véritable insomnie, parce que je me disais, à partir de demain, je ne serai plus jamais un inconnu. Et je trouvais ça terrifiant, véritablement. J'ai jamais recherché être reconnu dans la rue ou être célèbre. C'est vraiment l'amour de la musique qui m'a vraiment poussé à écrire des chansons. J'avais jamais imaginé, de toute façon, j'aurais jamais dans mes rêves les plus fous imaginé et fait les perspectives sur le fait qu'un jour je serais connu. Mais quand c'est arrivé, ça faisait assez peur, véritablement. J'ai mis vraiment du temps avant de savoir gérer cette espèce de monstre qui arrive chez vous et vous savez pas quoi en faire. Et puis en même temps, ça vous permet d'éclore, d'avoir une belle vie, de rencontrer les autres, de réaliser des fantasmes.
Parmi ces fantasmes, il y avait peut-être celui de chanter Jean Genet sur scène. Vous aviez eu l'occasion de le faire pour la chanson « Sur mon cou ». On en a déjà parlé. Mais le condamné à mort, vous allez le monter entièrement. Ce sera fin 2010 sur votre propre label, Radical Pop Music, et aux côtés de Jeanne Moreau. En fait, ce condamné à mort, il vous accompagne depuis presque toujours, puisque je crois que vous l'écoutiez déjà. Je parle de l'adaptation qu'on avait fait Hélène Martin avec Marc Augeret. Vous écoutiez déjà le condamné à mort adolescent ?
Oui, parce que je l'avais loué à la Maison de la Culture. J'étais abonné à la discothèque de la Maison de la Culture et donc je louais les disques toutes les semaines. Et j'étais tombé sur ce disque qui,
c'est pas
évidemment.
C'est une lecture d'adolescent quand même.
Si, j'avais entendu David Bowie parler de Genet beaucoup, et donc voilà, l'impact des héros de la pop, c'était très important. Je sais que, par exemple, l'impact de Bowie, de Lou Reed, de Andy Warhol, ça a eu beaucoup de conséquences sur la suite pour moi.
Pourtant, c'était un contresens. On a cru que Gene Genie, c'était Jean Genet.
Oui, pas du tout.
Pas du tout.
Mais je crois qu'ils se sont rencontrés. Mais que ça a pas du tout collé. Et j'ai écouté ce disque, évidemment. C'était un disque qui était vraiment un choc, un véritable choc. Mais je recherchais beaucoup les émotions fortes, en fait. Et donc, avec ce disque, j'ai vraiment été servi. C'est tellement beau. En plus, la musique d'Hélène Martin et la voix de Marc Augeret, qui est vraiment très très terrienne, quoi. Très pleine de rocailles. Enfin, c'est vraiment, c'est très organique, en fait, sa voix. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et à un moment donné, Hélène Martin est revenue dans mon existence. Et, elle faisait un concert à Paris. C'était dans les années 90. Et je l'avais rencontrée quand j'étais adolescent à la Maison de la Culture, justement, je la connaissais pas. Et il y avait une exposition Warhol, et il y avait un tableau suspendu, elle était d'un côté, moi de l'autre. Et on a bougé nos têtes au même moment. Et je lui dis bonjour, elle m'a dit bonjour. Et puis, au bout d'un moment, elle m'a dit, je pars chanter. Alors je dis, ah bon, vous êtes qui? Elle m'a dit, je suis Hélène Martin, venez voir mon concert. Et donc après, je me suis mis à écouter ses disques et à découvrir plein d'auteurs que je connaissais pas.
Vous parliez, Étienne Dao, de la voix de Marc Augeret quand il interprétait Le Condamné à mort. Vous, c'est à deux voix que vous allez interpréter le texte de Genet, avec celle de Jeanne Moreau, qui ne chante pas, qui parle. C'est vous qui êtes plutôt du côté du chant, mais à la lisière de la diction. Qu'est-ce que vous avez tiré sur le plan vocal de cet exercice qui est très à part dans votre discographie ?
C'est très agréable de chanter les textes des autres. Je pense que je chante mes textes d'une manière un peu plus retenue, parce que j'ai cette pudeur de tellement raconter de choses personnelles que je n'ose peut-être pas ouvrir la voix comme je l'ai ouverte pour Le Condamné. Alors que j'aurais dû être très intimidé par la situation et par le texte et par la présence de Jeanne et par le chemin que j'ai parcouru avec cette œuvre, à savoir jouer dans des endroits dans lesquels j'aurais jamais joué auparavant. La Cour des Papes, Avignon, l'Odéon, et des tas d'endroits où, venant du monde de la pop, on est considéré un peu comme un rigolo.
Le lien entre Jeanne Moreau et Jean Genet existait déjà, puisqu'elle avait notamment joué dans Mademoiselle. En ce qui vous concerne, certains ont pu être surpris par le fait de vous voir vous confronter à un texte très cru, très frontal. Hein, il faut le rappeler, c'est le premier texte de Jean Genet, écrit en 41 dans sa cellule de Fresnes. C'est une déclaration d'amour très sexuelle de Jean Genet à Maurice Pilorge, un assassin guillotiné à 20 ans pour avoir tué son amant. Mais je crois par exemple que le public du Québec n'avait pas très bien compris quand il était venu vous voir avec Jeanne Moreau. Il imaginait entendre les chansons de Resvani et Weekend à Rome.
Oui. Pourtant, c'était assez clair, mais il y a des gens qui ont été très choqués et qui ont quitté la salle. Ce qui ne s'est pas produit en France. Et c'était très beau de voir que il y avait l'idée de Jeanne aussi et de moi-même était de rendre ce texte universel, de ne pas sexualiser le texte. Je trouve que dans une chanson, tout le monde peut s'identifier. Enfin, je veux dire, qu'on soit un homme ou une femme, ou quelle que soit son orientation, une chanson est une chanson. Le Tourbillon, par exemple, est une chanson qui est adressée à une femme, par exemple. C'est drôle. Personne ne l'a jamais remarqué.
Je voudrais rester un instant sur ce rapport entre littérature et chanson. Certains ont parfois reproché à la chanson en français son rapport de dépendance à la littérature, qui par exemple ne ferait pas primer les sons des mots sur le rythme, mais plutôt le récit ou la manière du récit. Comment vous voyez ce rapport? Vous avez le sentiment, Étienne Dao, que peut-être une forme de chanson française a souffert d'un poids de la littérature?
Oui, il y a eu une condescendance, un mépris de certains musiciens. Je pense qu'il y a une espèce d'héritage des années 50 par rapport à ça. Moi, j'aime beaucoup aussi la vraie chanson française traditionnelle, mais l'arrivée de la pop et des métissages, de l'hyper-métissage avec les rythmiques anglo-saxonnes, ça a apporté beaucoup de choses. Le swing de Trenet, le rock de Boris Vian, la pop anglaise de Françoise Hardy et de Gainsbourg. Tout ça, ça a beaucoup fait bouger les choses. Ça a décomplexé beaucoup de musiciens. Enfin, disons que des musiciens comme ça ont préparé le terrain pour des gens comme moi et pour des gens de la génération d'aujourd'hui. À savoir que on n'a pas besoin de faire de la littérature quand on fait une chanson. Il peut arriver que le texte soit lisible sans la musique et qu'il y ait une forme littéraire. Mais globalement, c'est pas ça qui se passe. On est touché des fois par des bluettes aux larmes, parce que tout d'un coup, l'émotion est juste. Et pas parce que tout d'un coup, le texte est vraiment bien foutu. La chanson populaire, c'est l'émotion pure. Et il n'y a aucune honte à ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de plaisir coupable.
Une de vos chansons, Étienne Dao, Les Jalousies, a l'air d'être presque écrite avec les mots qui sont ceux de l'analyse. Je cite « Lorsque l'inconscient t'ouvre grand, c'est lourd de jalousie. » Et il faut comprendre jalousie au sens d'architecture.
Les fenêtres. Voilà.
L'analyse a été utile pour votre écriture à un moment, Étienne Dao ?
Oui, mais quand je dis l'inconscient, c'est pas l'inconscient au sens psychanalytique du terme. C'est l'inconscient avec un I majuscule qui est une personne. Je me serais jamais permis de parler de l'inconscient comme ça dans une chanson. C'est un truc très très personnel. Oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à un moment justement où j'avais perdu le goût des choses. C'était un mélange de beaucoup de, une addition de trop de fêtes, de trop de travail, de trop de peu de sommeil. Trop de substances, trop de plein de choses en fait, et d'épuisement en fait, qui ont eu raison de mon envie. Et je me suis retrouvé dans une tournée où je devais faire 14 pays en très peu de temps, avec beaucoup de voyages, beaucoup de longues distances. Et j'ai explosé en plein vol. Effectivement, c'est vraiment ça.
Et il faut signaler que vous avez en plus développé une phobie de l'avion.
Oui, c'est à ce moment-là. Je me suis retrouvé c'est comme une image, quoi. C'est d'être coincé dans un avion, on ne maîtrise plus rien. Et je maîtrisais plus rien. Je me suis retrouvé dans une tempête de neige avec un avion à hélice qui partait dans tous les sens et tout volait, les hôtesses hurlaient. C'était vraiment assez, assez terrifiant. Et j'étais contraint de faire le tour du monde et enfermé dans des avions et j'ai explosé, quoi. Véritablement. J'avais l'impression de ne plus du tout être maître de mon existence, de mon emploi du temps, de ma vie, de mon image, de rien. J'avais l'impression qu'on me volait tout, que j'étais pillé, quoi. Et donc, voilà, on me sortait pour monter sur scène et puis pour me ranger dans la boîte. Hein, c'est une période terrible. Et je me souviens être à Los Angeles Château Marmont et j'ai vraiment failli sauter par la fenêtre. Parce que les fenêtres sont très basses comme ça et j'ai tendance à être attiré par le vide. Déjà, globalement. Et donc, si je vois du vide, il faut que je m'en éloigne. Je suis attiré, quoi. Je me vois en bas. Enfin, c'est une espèce de, c'est le fou en soi, quoi. Et donc, là, j'ai eu très peur, vraiment. Parce que c'était irrésistible. Et en rentrant à Paris, je suis allé voir quelqu'un. Et j'ai trouvé ça tellement fantastique de pouvoir travailler avec quelqu'un d'intelligent, de compréhensif, de gentil. Et donc, de commencer à faire ce travail avec lui, que j'ai continué après, parce que quand j'ai commencé à aller beaucoup mieux, j'étais très intéressé. Je me disais, voilà, je m'adresse aux autres. Écrire une chanson, c'est pas anodin. Comment est-ce qu'on s'adresse aux autres? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on leur dit? Et j'ai eu envie de ça, de continuer ce travail pour pouvoir alimenter aussi les chansons de bonnes choses pour les autres.
Le 28 novembre 2006, Étienne Dao, quand le ministre de la Culture vous remettait les insignes d'officier des Arts et des Lettres, il avait choisi, à la fin de son allocution, le poème « Liberté » de Paul Éluard, qui finit ainsi, entre autres, « Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie ». Ça a été le cas pour vous ?
Oui, parce que, enfin, si on revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, dans ce travail psychanalytique, oui, le mot était important. Formuler les choses, c'était important. Je ne savais pas les formuler. Comme je disais dans un de nos chapitres, je viens d'une famille extrêmement pudique qui ne parle pas du tout, qui ne dit pas les choses essentielles. Voilà. Enfin, on ne dit pas ce qui ne va pas. Et donc, évidemment, je ne savais pas le dire. Et donc j'ai appris à le faire. Et c'était bien. Mais il faut dire aussi ce qui va bien. C'est si difficile de faire une chanson sur l'état de félicité. J'en ai pas écrit beaucoup, mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle Au commencement, justement, sur un album qui s'appelle Eden. Et c'était vraiment comme recommencer. Écrire cet album, c'était se dire, voilà, j'ai un futur. Je sens que j'ai un futur. Alors que précédemment... dans mon explosion des années 90, du début des années 90, je me disais, le meilleur est derrière moi. Où est mon envie de faire la musique? Où est mon envie de faire la chose qui compte le plus pour moi? Et je l'ai retrouvé à ce moment-là. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des disques qui ont commencé à me plaire encore plus.
On en restera là pour ce soir. Étienne Dao, merci. À demain.
À demain.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Étienne Dao.
Battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir.
À voix nue. Réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Martin Guénard, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
Où le matin va boire, le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent. sert si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche bord, nettoie des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.